Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Votre émission sport quotidienne 20h, 21h avec j'ai toujours une équipe fantastique. C'est ça qui est génial. Mourad est avec nous ce soir, est avec moi ce soir pour m'accompagner.
Comment ça va Claude?
Bah, écoute, ça va impeccable, et toi?
Ça va très bien. Après le match des héros, peut-être le plateau des héros ce soir.
Pourquoi pas?
Ou le plateau des héros.
En tout cas, ça commence bien avec Samir à tes côtés. Samir, un plaisir de t'avoir.
Salut Claude, salut tout le monde. Alors, je sais pas si je suis zéro ou un héros, je sais pas, on verra à la fin de l'émission, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous les gars.
Plaisir partagé. Et puis, il y en a un pourtant qui était hier au match des légendes, des héros.
Chance.
À l'Orange Vélodrome, c'est Abdel. Comment ça va, Abdel?
Abdel ressemble à un zéro, mais c'est un héros.
Merci. Voilà. Non, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là. Comme tu l'as dit, je rentre du match là. C'était une belle opposition. Ça a fait plaisir. On en parlera juste après.
Et puis on va y revenir, comme tu l'as dit, Abdel, juste après, sans oublier notre invité du soir, Simon Elizor, attaquant de Villefranche. Beaujolais auteur déjà de 3 buts en 10 matchs. Voilà. Bonne stat.
C'est pas mal, c'est très bonne stat. 3 buts en 10 matchs. C'est plus que Messi en championnat avec le Paris Saint-Germain.
C'est plus que Messi en championnat avec le Paris Saint-Germain. Exactement au menu de ce soir. On parlera bien sûr de cette rencontre hier. Drogba et compagnie de retour à l'Orange Vélodrome. Sans oublier la Ligue 1 qui revient visiblement à 18 clubs. Et puis Sergio Ramos.
Voilà.
Ouais. Recruté par le Paris Saint-Germain. Eh ben, toujours pas apte, les amis. Ça sera en fin d'émission. Allez.
Time Sport.
Le Vélodrome, l'Orange Vélodrome était à l'honneur hier soir avec le retour notamment d'un certain Didier Drogba et autres gloires marseillaises, Abdel.
Ouais, c'était une initiative prise par Didier Drogba par rapport à son association pour créer des écoles notamment avec... En partenariat avec l'UNICEF, il a décidé de faire ça au Vélodrome, dans un stade qu'il a bien connu. Malheureusement, il revient après avoir terminé sa carrière. Mais moi qui étais au stade hier, franchement, j'ai pris du plaisir quand même. Parce qu'on pourrait croire que voilà, c'est un match de charité, que le rythme est lent. Mais il y avait une telle diversité de niveaux, dans le sens où il y en a qui ont arrêté depuis peu, d'autres qui ne sont pas forcément... footballeur de naissance ou même de nature. Voilà, j'ai vu un beau match, surtout.
Moi,
pour
je connais personne qui est footballeur de naissance. Hein.
Oui,
même si je crois beaucoup au talent.
Oui, mais
après,
bon,
je suis pas sûr qu'on
laisse
tous footballeurs.
Mourad
après
toujours,
Abdel,
Mourad
je sais pas.
Toujours taquin. Mais
parce que je t'écoute, c'est la preuve que je t'écoute.
Plus sérieusement, voilà, c'est il y avait de très beaux noms hier sur la pelouse. Et voilà, pour une cause qui.
Il y avait qui là, par exemple?
Ben, personnellement, moi que j'ai aimé. Cambiasso, Mendieta, Eric Abidal, très en jambes.
Ça, c'était l'équipe,
l'équipe de l'UNICEF.
De l'UNICEF.
Il s'est pas fait humilier, Eric Abidal, face à Jules, là. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux.
Il y a un petit Drogba ou Ronaldo Schwab, comme certains disent, qui est glissé. Mais bon, voilà, c'était le plaisir. Jules est un bon joueur de base. Mais voilà, pour revenir au match, bah, ça fait partie d'une belle initiative. Et on a vu des anciennes gloires. Et franchement, même du côté de Marseille, de voir Van Buyten qui a marqué quand même l'histoire du club, Olmeta, entre autres. Franchement, c'était un plaisir. Même Maoulida qui a sorti une petite bandelette.
Ouais, franchement, un hommage, voilà, à Bernard Tapie.
Il en faudrait peut-être un peu plus des matchs comme ça, même si il y a déjà beaucoup d'argent dans le football, etc. Si c'est pour des œuvres caritatives, pourquoi pas tous se mélanger et participer à ce genre d'actes.
Réaction sur ce...
Non, c'est vrai que je pense qu'Abdel est le mieux placé pour en parler.
Oui.
Il était sur place. Après, pour moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu et beaucoup de choses n'ont rien changé. Cissé, il est toujours à 96 buts. Maoulida, il a sorti sa bandelette. Wenger a perdu sur le banc. Drogba qui met des triplés, même s'il a mis du temps à revenir. Il avait promis, il est revenu 17 ans après.
Il y a des suites logiques.
Voilà, il y a des suites logiques. Donc le football ne meurt jamais, j'ai l'impression. Donc voilà, donc c'était toujours intéressant. On a vu aussi un Teddy Riner impressionnant, un peu dans un rôle à la Lukaku. On a vu Van Buyten aussi, pour ceux qui suivaient l'OM.
Il était affûté,
exactement.
Teddy Riner, il a dit que s'il y avait un changement à faire, c'est lui se mettre au milieu de terrain pour toucher plus de ballons. Et tellement il était,
il se tellement dit il était affûté. Ouais, il me fait penser un peu à, je sais pas si vous vous souvenez, à Afimbu, c'est ça, l'attaquant de division 2 anglaise,
oui,
d'origine nigérienne.
Oui, oui, oui.
Voilà, exactement, costaud, qui joue à Wycombe. Et donc il me faisait penser à lui en fait. Excusez-moi.
Il y avait une belle brochette d'attaque. Pierre Gasly, Tony Parker et Teddy Riner.
C'est là où je remarque que c'est les anciens sportifs en fait, que c'est les sportifs qui jouent le mieux au foot. Parce que j'ai vu des rappeurs toucher des ballons, c'était assez catastrophique. Même s'ils font beaucoup de name dropping autour du football, mais les anciens sportifs, Gasly, Riner, Parker, ils ont tous marqué, ils ont tous assez bien joué. Et donc voilà, ça prouve que le dénominateur commun, c'est le sport.
C'est-à-dire quand même que le football, enfin tout le monde pratique, hein, même si ça a été des athlètes de haut niveau.
Bien sûr. Moi, ce que je retiens de cet événement, bah, évidemment, Abdel, il était sur l'île, donc il nous en a bien parlé. Mais moi, je retiens beaucoup plus le fond que la forme. Ce style d'événement, bon, c'est toujours cool de ramener plein d'anciens footballeurs qu'on a admirés, des artistes d'aujourd'hui, etc. Par contre, la cause, elle est noble. Le fond, c'est ce qu'on retient. Et puis, comme tu l'as si bien dit, malheureusement, on a besoin de plus d'événements comme ça dans l'année, mais tu sais que c'est compliqué avec les vies des uns et des autres, en fonction des matchs que tu as en championnat. Faut que le stade y soit libre, faut trouver. C'est très compliqué pour organiser ce style d'événement. Et franchement, ce serait super cool que, je sais pas, qu'on en ait beaucoup plus, quoi. Et Abdel tirait encore beaucoup plus kiffé sur les lieux, justement, si on avait plus d'événements. Mais le fond, la cause est noble. Et j'espère qu'on pourra vivre plus d'événements comme celui-ci.
Je peux juste rebondir sur le point justement de Samir. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du monde au portillon quand c'est des matchs caritatifs pour un peu soigner son dibage. Mais quand sportivement, il faut se battre pour ce club, notamment l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Je pense notamment à Drogba qui avait promis de revenir il y a 17 ans. Là, c'était il y a 17 ans. 3 ans après sa retraite, le mec il revient pour un match caritatif. Donc j'ai plus l'impression que c'est l'OM qui lui rend service. Je sais pas s'il a remercié l'OM, je pense qu'il l'a fait, mais en tout cas c'est l'OM qui et la ville de Marseille qui s'en sort grandi justement de ce type d'événement.
C'est pour ça, Mourad, que je dis que je retiens beaucoup plus le fond que la forme.
Tout à fait.
Tu as raison sur la forme. T'as l'impression que il y en a quelques-uns qui sont venus un peu soigner leur image. Tu sais, la petite photo à la fin, t'as tes 10 000 likes à la fin, enfin t'as ton petit truc. Mais moi j'aurais kiffé que ce soit vraiment les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui eux mettent une photo, qui eux vont recevoir 10 000 likes. Et qui eux, tu m'as compris.
Bien sûr.
C'est pour ça que je retiens vraiment le fond. De toute façon, on en a besoin.
Ouais, après, mais Robert Pires, il est meilleur sur le terrain qu'en consultant. On a appris plein de choses hein, aussi. Non, ça, c'est bien ce type d'événement.
Il est sûr.
Tu vois, Robert Pires, il a la même gestuelle et la même façon de courir depuis qu'il a commencé le football. Mais pour revenir sur les joueurs, ce que je trouve intéressant comme message, surtout, c'est que on voit de plus en plus de mixité dans ce genre de rassemblement. Ça veut dire que il y a, comme on l'a cité, des compétiteurs d'autres sports. Il y avait des acteurs, des humoristes. Et je trouve que ce genre d'événement, avant, c'était, même déjà qu'il y en avait très peu, c'était assez fermé. On voyait beaucoup de footeux ou ex-footeux. Et là, je trouve que ça s'ouvre de plus en plus. Surtout qu'à Marseille, il y a quand même aussi pas mal d'artistes, pas mal de talent en tout genre.
Et c'est pour toucher plus de public, en fait. Ouais, c'est en adéquation avec la stratégie de communication actuelle des réseaux sociaux. Il faut élargir, il faut toucher un maximum de personnes. Même si moi, je suis plus fan des matchs caritatifs du début des années 2000, fin des années 90, où à l'époque, il y avait des France contre le reste du monde, etc., etc. Il y avait des stars du Milan AC, les stars du Real Madrid d'un côté, où là, ça mettait plus d'étoiles dans les yeux que le match d'hier, qui était où on a passé un bon petit moment. Mais je pense que la semaine prochaine, on arrêtera d'en parler. Alors que les matchs de l'époque, caritatifs, où t'avais les anciennes stars qui s'affrontaient, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui s'amusent à regarder les highlights sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup plus marquant.
On dit qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, on a eu la réaction de Teddy Riner après le match, qui disait que justement, lui qui est membre qui a son association, il disait que ce genre d'événement réalisé hier allait lui donner envie d'en faire un de son côté. Donc, voilà, on sait que certains sont très égoïstes, d'autres sont très altruistes, et j'aimerais retenir ça aussi, que voilà, on voit pas ceux qui veulent juste croquer,
plus
voilà, que ceux qui ont envie de faire quelque chose et qui n'ont pas eu forcément le déclic, ça leur a permis d'avoir cette petite lumière là pour faire des choses de leur côté.
Et c'est tout sympa là les acteurs que tu as été amené à rencontrer.
Ouais, franchement très très disponible. On peut être surpris, mais personnellement, on était avec Jouba.
Celui qui t'a surpris le plus sur le terrain et en dehors du terrain par sa sympathie dans les couloirs éventuellement.
Honnêtement, je vais dire que si c'est un sportif, je vais dire que c'est Daniel Van Buyten, qui pour moi est quand même une légende du club, je le disais en introduction, et surtout il n'a pas été beaucoup interviewé, il n'a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues à lui, et je tiens à saluer aussi Sneezy qui est un rappeur,
le Parisien, qui est parisien,
qui hier a marqué, qui hier a un peu chambré, mais qui a été très respectueux envers nous, envers notre média, et franchement c'était une belle surprise de voir comment il a réagi en zone mixte. C'était très très intéressant.
Maintenant, est-ce qu'il y en a qui vous ont esquivé?
Esquivé, non, mais tu sais, quand il y a des têtes d'affiche, bien évidemment tout le monde a faim.
Déjà Abdel, tu peux pas l'esquiver dans un couloir si tu l'as en face de toi.
Honnêtement,
c'est compliqué.
Mourad, tu fais bien de le dire, même si on rigole, tu sais que c'était vraiment un combat. C'était nous qui débutions le deuxième match en zone mixte, tellement les gens ils avaient
la date. Tu prends RERB tous les jours, l'habitude.
C'est le jeu, c'est le métier, on va dire. Mais franchement, on a préféré prendre des gens un peu plus discrets. Et qui était vraiment prêt à dire des vraies choses plutôt que des choses que tout le monde allait avoir. Et
l'important, c'était les trois points, même si c'était un match caritatif, tout ça.
Ouais, non, mais
je connais.
Il y avait des zones en fait où voilà.
Je suis sûr qu'il y en a un qui l'a sorti, ça. L'important, c'est les trois points hier.
On voit Tony Parker qui se balade de micro en micro, qui dit la même chose, qui à un moment dit ironiquement. Je vais le redire à chaque fois. Il le dit ironiquement, mais quand même, c'est pas si ironique que ça. Il le pensait vraiment. Alors que des mecs, comme je le dis, Van Buyten, Olmeta, Basil Boli, entre autres, on sont passés et avaient vraiment un message à faire passer, à véhiculer quelque chose de positif sur cet événement. Et voilà, c'est pas ceux qu'on met le plus en lumière qui en gros apportent le plus d'informations sur ce genre d'événement.
Oui, Samir.
Je veux poser une question à Abdel. T'as senti que les gens étaient vraiment contents d'être là? Tu vois, des fois, dans ce type d'événement, je me pose la question. Imagine, tu parles plus avec quelqu'un depuis longtemps, tu dois te retrouver avec lui et tout, ce genre de tension. Des fois, tu le sens dans ces événements ou pas?
Non, franchement, je les ai sentis.
Vibes positives, tout le monde.
Ouais, vraiment, dans les retours qu'on a eus. Par contre, les personnes du métier qui étaient là-bas, on va pas, voilà, c'était un peu catastrophique. Il y a la moitié des personnes qui connaissaient pas les joueurs présents. Ça manquait de professionnalisme dans certaines zones du terrain, notamment en zone mixte.
C'était des médias locaux ou c'était des gros nationaux, médias, des gros médias.
C'est incroyable. Ça t'a surpris, toi, justement, de voir que il y a
une méconnaissance.
Il y a une méconnaissance.
Tout à fait, parce que il faut pas. T'es journaliste. Je suis très jeune par rapport aux personnes qui avaient là-bas. Dire c'est qui lui? C'est incroyable.
Sur qui on t'a dit c'est qui lui?
Je te dis, Daniel Van Buyten, inconnu, Pierre Gasly, du mal à reconnaître, Mademoiselle Lim, qui fait du tennis, j'ai oublié son prénom, qui est aussi une grande compétitrice.
Une star du tennis, hein, bien sûr, français.
Donc, et on te dit, c'est qui? En fait, ce qui est choquant, c'est même pas discret. C'est que, en fait, elle arrive pour se présenter, pour donner ses impressions. On dit, c'est qui? Est-ce que faut que je la prenne? Est-ce que faut que je recule? Et franchement, c'était dommageable. On avait l'impression qu'il y en a qui étaient là plus par intérêt que pour le plaisir.
Non, mais effectivement, je suis pour ce type d'événement. C'est un événement quand même, on va dire, c'est pour la bonne cause, un événement caritatif pour l'éducation, pour les enfants et l'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire en partenariat avec l'UNICEF. Il y a des stars de tout type, de tout univers, du monde du football, de la musique, du rap, du tennis, etc., etc. Donc un minimum de professionnalisme. Et ça fait plaisir de voir Abdel, qui justement est rempli sa mission, est parti là-bas. Plein de professionnalisme, plein de sérieux, et qui nous a pris de belles images et nous a remonté tous ces feedbacks à l'instant. Alors, merci Abdel.
À vous la pause. Un autre match à titre caritatif a eu lieu en fin d'après-midi, notamment entre le Variété Club de France et donc les anciens de Poissy, opposés à des soignants de l'hôpital, excusez-moi, de Poissy, hein, match organisé pour l'opération des pieds jaunes. Et le président Emmanuel Macron a mis son penalty, donc voilà, la stat du président, voilà, qui a été particulièrement efficace. Mourad.
Non, il me semble aussi qu'il y a un match aussi, enfin, entre guillemets, caritatif, mais plus commémoratif, c'est sur l'anniversaire des massacres du 17 octobre 61, qui aura lieu à Nanterre. Il me semble, je sais pas si c'est demain ou ce sera ce week-end, mais en tout cas, c'est un match qui aura lieu entre le Variété, je pense que ce sera dimanche, effectivement. Une date importante. Entre les anciennes gloires algériennes et une équipe associative de Nanterre. Donc, ça voilà. Sera... Donc je tenais aussi à le souligner.
Oui, ce sera à Nanterre, ce samedi.
Exactement. Ce sera ce dimanche à Nanterre, il me semble.
Ok. Est-ce qu'on a peut-être le coup d'envoi?
Alors, je te dirai ça. Laisse-moi juste revérifier et je te dirai ça en peut-être en cours d'émission, juste après, pendant la pub.
Juste une petite précision. On n'a pas dit le nombre d'argent qui a été récolté pour la fondation. 427 250 euros récoltés pour la fondation de Didier Drogba. Et il fallait savoir qu'hier, à chaque but, c'était 10 000 euros dans la cagnotte. Donc, c'est quand même une belle somme pour ce genre d'événement.
Ok, donc les gardiens, dans ces moments-là, font semblant de
Johan Pelé, il a pas fait. Il était très sérieux, hein, contrairement à d'autres. Hein. Ça se voit qu'il vient d'arrêter, qu'il voulait pas prendre de but.
Et Pascal Olmeta.
Non, bien. Pascal Olmeta, très, très sérieux après.
Goal volant, en mode goal volant, il y a aussi.
Il a fait 2-3 petites sorties. Comme on lui connaît, et c'était assez plaisant.
C'était le bon vieux temps, exactement. Et justement, par rapport au match d'hier, moi j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, l'état de forme de Samir Nasri. Donc pour tous les supporters marseillais qui nous écoutent et qui s'inquiètent de Dimitri Payet, dites-vous que Dimitri Payet devant Samir Nasri, c'est limite à la Philippe. Donc voilà, soyez positifs et arrêtez de critiquer Dimitri Payet. Voilà.
Une pause, on se pose juste après. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM. Abdel. Ça va, Abdel?
Très bien, on est impatients d'avoir l'invité là.
Ouais, Abdel, Mourad, présent ainsi que Samir, tout de suite, notre invité, Simon Elizor. Non, on me dit que. Non, il est coincé pour le moment. Ouais, c'est ça. Merci, Anis, à la réalisation. Un petit mot pour. Un petit mot sur. Justement, on va l'avoir, il évolue à Villefranche, Beaujolais. Un petit mot sur ces championnats de national 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On dit souvent qu'on se retrouve avec des joueurs qui ont côtoyé le haut niveau, mais qui n'ont pas forcément réussi. Des joueurs qui sont passés par les centres de formation. Des joueurs qui.
C'est des divisions un peu en même temps importantes et en même temps un peu traîtres. Puisque pour certains joueurs, c'est la passerelle pour te faire passer dans le monde professionnel. C'est-à-dire que c'est pas si amateur que ça. Le niveau commence à être super intéressant. Et ça te prépare du coup au monde professionnel. Et puis, un peu traître aussi, parce que voilà, en période de Covid, en pleine pandémie, on a vu à quel point en fait, ces divisions-là, ils ont pris cher. Tu vois, le fait de ne pas s'entraîner, de ne pas pouvoir continuer à faire pour certains leur métier, d'autres leur passion. On a vu à quel point c'était une galère et puis malheureusement à quel point ils sont lâchés de temps en temps par les fédérations. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis je pense qu'Abdel fait le tour des terrains d'Île-de-France. Vous en parlez encore une fois de plus près. Décidément, Abdel, il est vraiment partout.
Ouais, non,
c'est un globe-trotteur, Abdel.
Il y a beaucoup de disparités dans les divisions que tu as citées, Claude. Parce que voilà, il y a des jeunes joueurs qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un premier contrat professionnel. Donc ils reviennent là pour pas perdre le pied et même garder une structure physique, et d'autres qui sont plus anciens et qui ont pas envie de descendre à un niveau régional et garder le cap du national. La vérité est que aujourd'hui il y a beaucoup de progrès dans ce genre de championnat. En N3 c'est encore un petit peu difficile, l'équivalent de la CFA2, mais en N2 il y a de plus en plus d'équipes qui jouent au ballon, et mine de rien, c'est vrai qu'on s'intéresse à ce genre de championnat parce que des fois, on a des potes ou on a des mecs qu'on connaît qui jouent dans ce genre de division, et ça nous permet de voir soit les coéquipiers, soit les adversaires. Et franchement, moi qui en regarde quelques-uns, même des jeunes qui, avant de passer au monde professionnel, sont dans les clubs pro jouant en réserve, et ben tu regardes et franchement, je prends pas le plus grand plaisir, mais c'est quand même agréable à regarder par rapport à avant, il y a quelques années.
Pourtant, on se rend compte que même à ces niveaux-là, on peut détecter des pépites. Pas mal de joueurs ont été détectés en national.
Exactement.
Qui ont évolué en réseau.
Moi, je pense à Franck Ribéry, aussi notamment, qui est issu des divisions inférieures. C'est un peu, pour moi, le national, que ce soit 3-2-1, c'est un peu l'antichambre du football professionnel. Il y a aussi Mathieu Valbuena, à qui je pense. Bon, il y en a sûrement d'autres qui sont sortis de national, mais c'est un vivier à regarder, parce que c'est généralement ceux qui n'ont pas su passer l'étape centre de formation, signature de contrat pro, et parfois pour des raisons de maturité, pour des raisons de croissance, pour des raisons morphologiques, pour des raisons sociales, ben, n'ont pas pu prendre le pli, et donc il leur faut un peu plus de temps. Donc il faut toujours garder un œil sur ces champions-là.
C'est vrai que si on prend l'exemple, par exemple, de Mathieu Valbuena, qui est Taliban de Saint-Seurin, ainsi que de Franck Ribéry, qui était à Boulogne-sur-Mer, les deux avaient été formés, l'un à Lille, je crois, viré du LOS.
Et l'autre à Bordeaux.
À Bordeaux, mais Valbuena est allé jusqu'au bout, sauf qu'au dernier moment, on lui a dit stop.
Exactement.
Après, je pense que les joueurs d'aujourd'hui qui évoluent dans ces championnats-là, ils ont vraiment des raisons d'y croire, en fait, de devenir footballeur professionnel. Parce que moi, pour y avoir joué à l'époque, je suis de la génération 86. Donc, je suis de la génération où, tu sais, Nasri, Benzema, Ben Arfa, à 17 ans, c'était déjà pro. À plus de 20 ans, t'avais pas signé pro, t'étais en retard. Aujourd'hui, c'est différent. Avec les difficultés financières des clubs, maintenant, les clubs, ils sont à l'affût des bons coups, des bons joueurs dans les championnats inférieurs qui vont te coûter quasi rien et qui vont te faire une plus-value à la revente. Et aujourd'hui, on voit que là, vous avez cité des joueurs qui ont explosé, qui sont des vrais talents. Enfin, tu vois, que ce soit Valbuena, que ce soit Ribéry. Là, vous avez cité des joueurs de football qu'on a reconnus limite à l'international. Mais aujourd'hui, à une plus petite échelle, tu as des joueurs aujourd'hui, on va dire, d'un talent moindre, mais qui peuvent quand même aujourd'hui, à 24-25 ans, espérer jouer en national, en Ligue 2, sans être reconnus internationalement, mais qui peuvent encore faire leur carrière. À mon époque, c'était quasi pas possible.
Il faut le souligner. Il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant qu'avant.
Réalité économique, peut-être.
Et surtout, je pense... Ouais, réalité économique, peut-être, mais je pense...
Moins de moyens, je sais pas.
Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis... en place dans certains clubs, parce que il y a toujours l'envie de gravir les échelons et d'avoir son club au plus haut niveau. On peut voir ça avec Paris 13 Atlético, anciennement Gobelins, qui est en N2, des clubs comme Fleury. Mais aujourd'hui, outre le terrain en lui-même, c'est que il y a beaucoup plus de suivi et de savoir hors du terrain. On sait pourquoi on va là, on sait pourquoi on évolue là, avec qui, quel effectif nous est proposé.
Tout s'est bien développé, contrairement à il y a encore une dizaine d'années. Tu sais, aujourd'hui, tu peux savoir les statistiques des joueurs, tu peux même avoir des vidéos. Maintenant, les clubs, ils filment leurs matchs.
Ils ont une page Transfer Market.
Exactement. Et je peux te dire qu'à une époque, les matchs, ils n'étaient pas filmés. Hein. Donc maintenant, aujourd'hui, tu joues en N2, tu peux voir tes matchs tranquille. Tu peux faire des petits montages pendant 90 minutes. Ça se trouve, tu n'as rien foutu, mais tu as fait un bon geste technique à une action. Hop, ça va glisser dans le montage. Je trouve que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour se faire remarquer qu'à une époque.
Et je pense aussi que la nationale, c'est un bon tremplin aussi pour accéder à des championnats professionnels étrangers dans des pays un peu plus exotiques. Je pense notamment aux Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Europe de l'Est. Ouais. Quand tu as le niveau pour jouer en national, tu peux accéder au professionnalisme assez facilement, ensuite rebondir et même parfois jouer la Coupe de l'UEFA à un niveau très avancé. Et pourquoi pas la Ligue des Champions avec des tours préliminaires. On le voit avec le Sheriff Limassol, c'est ça ? Avec le jeune Thiel, le franco-luxembourgeois.
Tiraspol,
autant pour moi. Limassol, c'est un autre pays. Avec le jeune Thiel qui est franco-luxembourgeois. Et qui joue contre le Real Madrid et qui a battu le Real Madrid et qui a même marqué. Donc du coup, ça veut rien dire. C'est un bon tremplin. Il est parfois négligent en France, selon moi, parce qu'on a des nationales à l'étranger, notamment en Espagne, qui sont, pour moi, le niveau est un cran au-dessus. Je pense notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Alcorcón, qui a battu le Real Madrid, mais avec l'art et la manière, qui n'avait pas battu le Real Madrid comme le Shakhtar Donetsk avait battu le Barça à l'époque. Ils ont battu avec l'art et la manière, sur le plan du jeu, sur le plan de la possession, sur le plan tactique. Et donc voilà, je pense qu'il est un peu négligé en France, et donc il faudrait... pourquoi pas remettre la lumière sur son championnat. Après, concernant le club de Villefranche-Beaujolais, j'aime beaucoup ses initiales, le FCBV, ça fait penser au FC Barcelone, mais non, ils jouent quand même la montée en Ligue 2 parce qu'ils sont troisième. Et là, aujourd'hui, on est sur le point de recevoir un de leurs joueurs, mais on aurait pu recevoir deux autres joueurs qui ont été élus joueurs du mois.
Ouais, en tout cas, en ce qui concerne Simon Elizor, pour le moment, il est peut-être en train de faire son gainage. C'est pas grave, car nous, tous les lundis...
En tout cas, il a un nom à jouer en Bundesliga 2. Je lui souhaite le meilleur, en tout cas.
J'espère qu'il nous écoutera, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas que tous les lundis et jeudis, nous suivons les aventures de Bilal Venture, voilà, qui parcourt le monde et qui est avec nous ce soir. Bilal, comment ça va?
Oui, bonsoir. Ça va, vous allez bien?
Salut, Bilal.
Impeccable. Toujours un plaisir, voilà, de vous retrouver sur Thamesport FM. Vous en êtes où, Bilal, là, actuellement? On en est où, là, dans le périple?
Alors, merci beaucoup. Ben, écoutez, moi, là, je suis à Rio de Janeiro. Donc, on n'a pas pu se rendre en ligne l'année dernière, ouais, c'est ça. Et du coup, ben, en fait, j'étais en pleine intention du, comment il s'appelle, du Chris Edelman. Et là, pour une fois, j'ai essayé, là, aujourd'hui, je viens de faire le format de coupe.
Ah, ça a coupé, Bilal? Vous venez de faire le...
Le pomme de sucre, le fait de sucre, en fait, la première, en fait, il y a deux grosses collines ici à Rio de Janeiro, on va dire, qui sont un peu connues pour leur coucher de soleil et autres. Donc, il y a le Christ Redemptor, où il y a, en fait, c'est la colline la plus connue. Et on a le pain de sucre. En fait, c'est une colline qui a 200-300 mètres d'altitude. Et le truc, c'est que, bon, ça a été découvert dans le 16e siècle pour les Portugais, etc. Donc, ils ont donné un peu ce nom. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on l'a remonté. Et voilà, je suis super content.
D'accord, ok.
Oui, une question morale.
Merci beaucoup. Non, c'est intéressant parce qu'on découvre aussi la culture brésilienne à travers Bilal, donc c'est important. Moi, je m'intéresse fortement à la culture footballistique brésilienne. Neymar a fait une semi-annonce en annonçant qu'il allait éventuellement prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2022. Dans les bistrots de Rio de Janeiro, entre guillemets, qu'est-ce qui se dit, Bilal, justement? Est-ce que ça en parle? Je ne sais pas si tu parles portugais, si tu as pu apprendre le portugais en quelques semaines. Est-ce que ça fait jaser là-bas?
Ouais, j'ai appris le portugais en 3 semaines, en 2018, donc ça va, je parle.
Génial. T'es sponsorisé par Vocable? T'es sponsorisé par Vocable? Parce que c'est incroyable d'apprendre une langue en 3 semaines.
Ah, non, mais après, voilà, je pense, si on le dit un petit peu, on se jette un petit peu dans le temps, et je pense qu'on peut faire, on a toutes des choses en nous, on cache, qu'on ne sait pas, et il faut aller les chercher, c'est l'aventure un peu.
J'ai lu toutes les interviews de Cristiano Ronaldo depuis 2004 et je parle pas portugais. Donc je te félicite en tout cas,
merci
Bilal.
Merci beaucoup, il n'y a pas de souci.
Samir avait peut-être une réaction pour Bilal.
Ah, je pense qu'il voulait rebondir là-dessus
sur
les bruits de couloir.
J'ai pas bien compris, pardon.
Je pense que tu voulais rebondir sur ma question, justement, Bilal.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est pour directement vous répondre. Et le truc, c'est qu'en fait, ici, pour l'instant, ils n'en parlent pas beaucoup. En fait, ils sont plus concentrés par rapport au Flamenco et tout. Et qui, en ce moment, est en train de bien monter. Et à part ça, j'ai pas entendu plus de choses sur Neymar.
D'accord, ok. C'est peut-être une fausse annonce alors dans ce cas. C'était peut-être pour meubler de son côté. C'est peut-être au Paris Saint-Germain. C'est peut-être à Paris qu'on a plus peur de cette retraite.
C'était avec un média très sérieux. Non.
C'était effectivement. Non mais je.
Samir.
Non mais je veux dire son annonce.
Allez, Samir, t'avais
Bilal, je m'excuse d'avance de ma question. Je récupère ton aventure en cours de route et pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui récupèrent aussi ton expérience en cours de route. Pourquoi tu es là-bas exactement et enfin que je comprenne exactement. Ton aventure.
Bien sûr, avec plaisir. En fait, c'est un reprise pour ma sphère et sportif. En fait, le but pour moi, c'est quand j'ai déjà fini en 2018 ici, où j'aurais fait 2 mois et demi, pour le but, j'étais brésilien. En fait, ça m'avait ouvert les yeux sur la mentalité, la culture, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, du coup, il faut que je parle de ça d'autre, je pense à l'aventure sur plusieurs mois, et pas que le Brésil. Il y a d'autres pays, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, et là, pour l'instant, on est au Brésil. On est en train de remonter toute la côte, je suis en train de remonter la côte, donc au Coro, Rio, etc. En allant chez l'habitant, en allant dans les académies de jiu-jitsu brésiliennes, voir les jeunes comment ils s'entraînent, interviewer des jeunes et tout mettre au fur et à mesure sur les réseaux sociaux.
Et
là, par exemple aujourd'hui, j'ai la chance, il faut dire ça comme ça, d'aller dans une favela et du coup de changer de lieu d'hospitalité que je suis. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en train de faire mon test et je vais partir pour je ne sais pas combien de temps dans une favela.
Et t'es vraiment en solo? T'es solo.
Ah oui, je suis seul là.
Eh ben.
Lui, Saka Perinia.
Mais
je pense qu'il doit connaître Bilal.
Est-ce qu'il y a.
Non, c'était une boisson très, très connue au Brésil. C'est pour faire la fête, etc.
Alors ici, ils sont plus Guarana. On est plus sur du Guarana ici. C'est plus Guarana gazeux.
Bilal,
d'accord.
Oui.
Est-ce qu'il y a une volonté de préparer une aventure télévisée à l'avenir, type Pékin Express, type Koh Lanta? Est-ce qu'il y a une volonté de se préparer à ça?
Alors honnêtement, je ne suis pas contre. Franchement, j'essaie de faire étape par étape. Déjà finir mon aventure, la partager au maximum avec un max de personnes de façon qualitative. Après, oui, je suis ouvert à toute proposition, notamment tout ce qui est aventure sportive.
Elle va durer jusqu'à quand cette aventure, Bilal?
Alors, j'ai pas encore de date exacte, mais je sais que ça va durer quelques mois, au moins jusqu'à janvier-février, parce que voilà, quand j'aurai fini la côte.
T'as envie de profiter de l'été au Brésil, hein? Petit cachotier. Dis-le franchement.
Parce qu'à Marseille, l'été il commence à aller. En mai-juin, il finit en septembre-octobre. Donc là, je suis parti fin septembre, je vais prolonger encore l'été.
Tu fais bien, tu fais bien.
Voilà, voilà.
Ben écoute, merci en tout cas d'avoir partagé ta petite aventure. Bilal, c'est un plaisir.
Voilà, comme je dis aux auditeurs, auditrices, pardon, à chaque fois, n'hésitez pas à suivre. Et si vous avez des questions, je réponds à tout le monde comme je peux.
C'est quoi tes réseaux, Bilal?
L'aventure sur les réseaux. Comment?
Tes réseaux, si on peut écouter tes... Enfin, tu peux nous communiquer tes réseaux.
Bien sûr, en fait, j'ai Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat. Et en fait, je partage vraiment mon quotidien. Et c'est Bill Adventure. Bill Adventure.
Bill Adventure.
Suivez-le.
Donc on voit que tu es joignable par tous les moyens. Bah, il manque plus que le satellite.
On est là vraiment pour partager le terrain, là où on va dire certains médias ne rentrent pas. Nous, on essaie de rentrer, de filmer, d'interviewer, et surtout d'avoir des avis réels.
Bah écoute, magnifique. Merci beaucoup.
Merci,
en tout cas. Merci.
À lundi, du coup.
Merci Bilal. Merci,
à la prochaine, Bilal.
Allez, à lundi. Oui, on se retrouve. Et oui, oui, Yanis. Allez, un peu de pause, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, 20h, 21h, avec mes consultants Mourad, Samir ainsi que Abdel. Et tout de suite, la suite.
Time Sport, la troisième mi-temps. La troisième...
Un coup 20, un coup 18, un coup 20, un coup 18.
C'est ça.
Puis en 96-20, puis en 2002-18. Puis on est revenu à 20 pour repartir à 18 clubs, les amis.
J'ai l'impression que tu parles de ma moyenne en terminale. Je faisais que 18-20, 18-20. Non, je plaisante. Non, mais ça, on sait ce par quoi c'est motivé. Ça, c'est pas par passion du football. C'est motivé par la crise des droits TV. Il faut réduire le nombre de bénéficiaires pour augmenter les parts du tout à chacun. Mais là, les 20 clubs qui sont réunis, enfin de Ligue 1, pour discuter de manière collégiale sur ce passage à 18, eh ben, le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'il va falloir en laisser deux clubs sur le côté. Et bien sûr qu'il y a des intérêts financiers, ça c'est sûr, mais il y a deux clubs qui vont devoir sortir de ce système-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu la jungle. Voilà. Mais c'est clairement motivé par les droits TV, augmenter les parts pour chaque club. Et après, il y a aussi d'autres agendas, on pourra en discuter un peu plus tard, hein. Je vais laisser mes collègues en discuter, mais le fait de réduire à 18 la Ligue 1, ça fait beaucoup moins de matchs, ça laisse un agenda beaucoup plus important pour l'UEFA et la FIFA, ça peut éventuellement laisser de la place pour le nouveau format Ligue des Champions qui, comme par hasard, arrivera au même moment, c'est-à-dire en 2023-2024. Donc il y a quelque chose qui se prépare, on a l'impression que peut-être la Ligue 1 se met au diapason des instances européennes et des instances mondiales pour faire de la place à un certain projet obscur. Je vais pas faire mon complotiste ici, mais on sait que voilà, il y a un nouveau format de Ligue des Champions qui arrive. On a déjà été amputé de la Coupe de la Ligue. Là, on va être avec une Ligue 1-18. Ça peut arranger le Paris Saint-Germain. Ça peut faire des malheureux comme Brest, par exemple. Mais on sait que voilà, derrière, il y a cette carotte qui dit bah, potentiellement, si vous restez en Ligue 1, bah, la part des droits TV sera plus importante.
Alors je rappelle, hein, la LFP vient d'adopter le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs pour la saison 2023-2024. Ainsi, quels clubs défendront en Ligue 2 à l'issue de la saison prochaine? Il n'y aura pas donc de play-off ni de barrage à l'issue de la saison prochaine. Quels clubs donc de Ligue 1 descendront et deux de Ligue 2 vont monter? Par conséquent, la tension sera à son maximum pour les clubs de Ligue 1 de leur côté. Par exemple, les Girondins devront déjà se maintenir cette saison en Ligue 1 et préparer une équipe compétitive pour la saison suivante, car de la 17e à la 20e place, eh ben, ça sera la relégation.
Pour les Girondins de Bordeaux, ce sera super fêtatoire, hein, parce qu'ils vont quand même descendre l'année prochaine.
Ouais, c'est comme tu dis, Mourad, en fait, c'est malheur aux équipes qui descendront au moment où il y aura la réforme qui sera mise en vigueur. Après, je vais dire que je vais voir un petit côté positif. Je pense que avec la pandémie qu'il y a eu, on voit quand même de plus en plus de qualité en Ligue 1, des matchs un peu plus serrés, un peu plus spectaculaires. Et le fait de passer de 20 à 18, la Ligue se dit que voilà, on va encore aller sur ce même procédé et du coup avoir encore plus de qualité. Je trouve que c'est se mentir à soi-même, mais je pense que ils ont envie de faire passer un petit peu la pilule comme ça. Et voilà, après, c'est un championnat quand même qui...
Ça dépend de quel prisme on se positionne. Du côté Paris Saint-Germain, plus de matchs de qualité, moins de matchs inutiles, donc potentiellement mieux armé pour la Ligue des Champions. Mais pour Brest, par exemple, c'est moins de billetterie, c'est moins de visibilité. Après, et il y a un côté hypocrite aussi, parce que la plupart des clubs, comme le Paris Saint-Germain, je vais pas accabler le Paris Saint-Germain, mais chaque chose, non, quand même pas. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Abdel.
Presque.
Commence pas. Hein. Donc du coup, le Paris Saint-Germain qui s'élève contre la Super League il y a quelques mois, et du coup là qui potentiellement est derrière ce projet de Ligue 1-18 où là il y a d'autres petits clubs qui pourront souffrir. Donc voilà, il y a un côté un peu hypocrite derrière cette démarche.
Samir, merci Mourad.
Je te relaisse juste la parole à Abdel juste derrière, mais moi c'est juste en intro de ce sujet, Claude, t'as évoqué les transitions 20 clubs, 18 clubs, je les ai connus ces transitions. Moi j'étais petit, c'était à 20, ensuite j'ai connu 18, j'ai reconnu 20. Même pour le public, c'est déstabilisant, c'est chiant en fait. Tu te dis, t'as envie de leur dire à un moment donné, mettez-vous d'accord, restez sur une décision et restez-y un moment. Alors les arguments, il les a donnés, Mourad. Hein. C'est effectivement pour ces raisons-là. Mais à un moment donné, les clubs, ils se projettent comment pour les futures saisons à venir? Parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, il y a un recrutement qui est en jeu, il y a un organigramme qui est en jeu, il y a plein de choses qui est en jeu, tu vois. Et puis il y a un public aussi, que ce soit Brest, que ce soit Bordeaux, peu importe, on s'en fout. Et là, je suis en train de baisser, tu vois, avec mon siège. Je suis tout donc, gentiment, je vais partir du sang, micro. Là. Mais ça, moi, en
c'est
tant
comme
que,
les droits TV des petits clubs de Ligue 1, là. Ils font
c'est
comme
ça, je suis en train de baisser en même temps. Mais que ce soit en tant que spectateur, supporter, ce que tu veux, franchement, 18 ou 20, ok, mais reste-y un moment. Tu vois, en termes de stabilité, je comprends pas. Voilà, donc moi, ça me perturbe un petit peu.
Ouais, j'ose espérer qu'il y ait... comme je disais, un peu plus de qualité qu'on continue dans ce chemin-là.
Après, parce que les gars, ça allège les matchs, ça allège 4 matchs.
Ouais, c'est
déjà ça, mais
après faut voir. En fait, je pense que y a eu plusieurs réformes qui auraient pu être mises en place bien avant. Là, quand la réforme elle va se mettre en place, il y aura même pas. Je pense que les clubs se seront pas remis à flot. Il y aura toujours des problèmes malheureusement. Et je trouve que c'est pas même si tu la mets en 2023-2024, ça te laisse très peu de temps pour te retourner.
Exactement.
Vous parlez des organigrammes, etc. Pour les clubs qui ont des centres de formation, parce qu'on sait qu'on fait très attention aux jeunes, c'est un coût, les centres de formation, où tu les mets, comment tu fais, comment tu vas attirer sur plusieurs points, comment tu vas faire la différence. Je trouve que, voilà, ça, si on part du plus bas, ça peut être compliqué. Après, moi, comme j'ai toujours été un fervent supporter de la Ligue 1, j'ose espérer que, en fait...
C'est un point important, ce que tu dis, Abdel, c'est très important.
C'est vrai, et moi, j'aimerais que, en fait, la Ligue 1, si je parle d'un point de vue purement terrain, elle soit plus regardée, parce que je trouve qu'on la met pas assez en avant. Après, chacun a ses arguments, mais je trouve qu'on la met pas assez en avant et qu'elle est pas assez regardée. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualité dans le championnat, mine de rien.
Je pense que la Ligue 1 sera regardée. Excuse-moi, Samir, je te laisse la parole. Je pense que la Ligue 1 sera regardée à partir du moment où les résultats au niveau européen seront au rendez-vous. Pour moi, le vrai curseur de la qualité de la Ligue 1, c'est la performance dans les compétitions européennes. L'année dernière, ça a été pas le cas. Les années d'avant, ça n'avait pas été le cas. Il y a que le Paris Saint-Germain qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. J'ai beaucoup d'espoir pour cette saison avec le Stade Rennais, avec l'Olympique de Marseille peut-être en Coupe de l'UEFA, avec d'autres clubs. Voilà, Lyon. Leur niveau. Lyon aussi, exactement. Donc voilà, le vrai curseur est là. Je pense que la visibilité, elle est marquée par les performances en coupes européennes. Après, moi, pour en revenir au droit TV, je veux savoir ce que pense justement Amazon Prime, qui est le détenteur majoritaire des droits TV de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'ils en pensent du fait d'avoir moins de matchs? D'accord? Je sais pas comment les droits sont répartis, du fait d'avoir moins de matchs, du fait de voir une Ligue 1 réduite à 18. Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire? Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont pas eu leur... Est-ce qu'ils ont justement, c'est indépendamment des décisions? Donc voilà, j'aimerais justement savoir un peu plus. Je sais pas ce que t'en penses, Samir, mais il y a beaucoup de tenants d'aboutissants dans cette affaire.
Moi, ce qui me perturbe, c'est que je voulais revenir sur ce que disait Abdel. C'est important ce que tu disais. Pour un club comme Nîmes, qui a perdu son centre de formation. D'accord? Déjà, tu formes plus. Tu perds ton centre de formation. T'as des problèmes financiers et tu passes une Ligue 1 à 18 clubs. Quel message tu envoies au club de Ligue 2 pour te donner les chances, en fait, de monter en Ligue 1? L'anime, c'est comme ça, on disait anime, en fait.
Mis à part vous êtes cantonné à la Ligue 2 jusqu'à...
Mais mis à part finir premier, en fait, tu peux rien faire, quoi, concrètement. Si tu te mets à la place de Nîmes, t'as plus ton centre de formation, tu formes plus, et tes chances, ça sont minimisées de monter en Ligue 1. C'est quoi le message que t'envoies à la Ligue 2?
Ben, ça, c'est au collège des clubs de Ligue 2, parce qu'il y a le collège des clubs de Ligue 1 qui sont entretenus, donc ils ont évalué, ils ont les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. J'imagine que les clubs de Ligue 2 ont fait la même chose. Et justement, quels ont été les avantages de passer à une Ligue 1-18? Parce qu'il y en a 4 qui vont descendre et 2 qui vont monter. Donc, par rapport au business model du tout à chacun, l'anime n'a pas de centre de formation. Comme tu as dit, est-ce qu'ils seront condamnés à percevoir un petit pécule et essayer de survivre en Ligue 2? Ou est-ce qu'ils ont des vraies ambitions? Ou est-ce qu'il faut mettre justement des incentives, une genre de carotte pour les inciter à monter en Ligue 2 avec des réformes, avec des projets concrets sportifs? Ça, je sais pas. Mais je pense qu'il faudrait lire. Parce que je pense qu'ils sont réunis, le collège des clubs de Ligue 2, et voir justement quel a été le compte rendu.
Merci, Mourad.
Juste, on a fait un point tout à l'heure sur les clubs de national. Si on parle du fait qu'il y ait des progrès dans ce genre de championnat, c'est qu'en Ligue 2 aussi, c'est aussi plaisant à voir de temps en temps. Et je pense que des clubs qui ont, comme pour compléter ce que tu dis, Mourad, qui ont voulu et qui ont voulu instaurer un projet, mettre des choses en place, le fait de se manger la réforme pleine tête comme ça, c'est dire qu'en fait on a mis des investissements en l'air, et avec la crise du Covid qu'on va jamais récupérer.
Exactement.
Et franchement, c'est vraiment creuser le trou et mettre le sapin dessus.
Ouais, c'est la roulette au casino, en fait. Tu te dis, tu tant d'investissements pour potentiellement descendre en Ligue 2, et tu te dis que tout ce qui a été mis en place, tous les efforts qui ont été mis en place, peuvent être balayés d'un revers dans la main.
Dans tous les cas,
pour une question de résultats.
Ouais, non, mais c'est un truc financier.
Là, on est dans le foot business. Pour ceux qui nous disent, on veut des meilleures affiches parce qu'on est des amoureux du football, moi, j'y crois moyen. Voilà.
Merci, on passe à la suite.
Time Sport.
Nous sommes le 14 octobre. D'accord. Et notre ami Sergio Ramos, les amis, n'est toujours pas apte à évoluer avec le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que on commence à entendre des agacements de la part du Paris Saint-Germain, des moqueries aussi. Votre avis sur Ramos, qui est quand même à la base la première recrue estivale. Mais malheureusement, l'hiver arrive et toujours pas de Sergio.
Déjà, la première question, est-ce que le Paris Saint-Germain était au courant qu'il le recrutait, qu'il serait autant blessé, quoi? Est-ce qu'ils étaient au courant de la date d'invalidité de Sergio Ramos? Ça, c'est la première question que moi je me pose. Ensuite, la deuxième, je pense que même en tant que professionnel, à mon avis, les terrains doivent lui manquer énormément. Là, je parle de Sergio Ramos. Et puis moi, évidemment, je pense qu'en tant que consultant, c'est tous un petit peu interrogé sur la question, puisqu'il revient énormément sur Sergio Ramos. C'est que ce joueur, s'il ne se sent pas à 100%, il ne joue pas. Il veut pas prendre le risque de jouer à 60, 70%, 75%. Soit il est à 100%, il est sur le terrain. Tant qu'il estime qu'il n'est pas à 100% pour se donner à fond sur le terrain, il ne joue pas. Donc évidemment, ceux qui perdent énormément dans cette histoire, c'est un petit peu tout le monde, les supporters qui ont énormément envie de le voir, parce qu'avoir une icône comme Sergio Ramos au Paris Saint-Germain et en Ligue 1, évidemment, c'est pas tous les 4 matins. Et puis tout le monde y perd un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans la non-titularisation de Sergio Ramos.
Sauf le Real Madrid. Ouais, on le saura si c'est un cadeau empoisonné ou pas en fin de saison, parce qu'il a le temps de revenir. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'il le savait? Il y a des visites médicales qui sont organisées par les clubs. Et moi, je voudrais m'interroger sur l'état de ces visites médicales. Est-ce que c'est des visites médicales comme à l'époque, avant d'entrer en sixième, où on prend justement ta taille et ta tension? Ou est-ce que c'est des visites médicales poussées? Là, on parle d'un problème au cartilage, et non pas au ménis, qui est beaucoup plus profond. Après, il y a tout ce qui est les blessures de compensation. Là, c'est une blessure au mollet. Les blessures au mollet sont les plus persistantes. D'accord? Donc on le sait tout ça, la visite médicale, on l'a vu les images de Sergio Ramos, il était branché de partout tel un personnage de Dragon Ball Z.
Où qu'il soit branché partout, Mourad, c'est les termes qui ont été employés après la visite, que ils ont jamais vu ça, que c'est extraordinaire. Comment tu peux dire que c'est extraordinaire et après
Je sais. Et après constater que t'as une blessure au ménisque, au cartilage, voilà, pardon. Mais on n'est pas au ménisque.
On connaît quand même le football. On sait que c'est pas les mêmes efforts, c'est pas le même type de charge de travail. Ouais. Mais quand même.
Oui, les gars, c'est là où je veux en venir, c'est que les gars, on peut être affûté comme l'est. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais avoir peut-être le corps fatigué, l'accumulation des années.
Moi, je pense que ça a été dissimulé de sa part.
C'est un joueur qui a peut-être qui a rarement été blessé depuis l'âge de 17 ans. Et peut-être que son corps fatigue, ce qui n'empêche pas d'être affûté, mais peut-être que.
Moi, je suis les médecins parisiens, je me pose la question. Je fais signer un joueur qui a joué 7 matchs la saison précédente. Il arrive en visite médicale, on le met sur un tapis roulant avec toute la panoplie de tests qu'on lui fait faire, et on dit sa visite médicale a été incroyable. Il est dans une condition physique exceptionnelle. Ben, je me dis, soit à un moment donné, ces médecins sont pas compétents, soit à un moment donné, il y a une grosse simulation côté Sergio Ramos.
Mais on te propose un pont d'or comme Sergio Ramos. Forcément, t'es pas bête, t'as un minimum de professionnalisme.
Ah, moi, je suis sur une chaise roulante, je me lève, je marche. On propose le contrat de Sergio Ramos.
Tout déchiré en visite médicale, quand t'as sa carrière, quand même, mine de rien, c'est quand même un gros palmarès, c'est l'un des meilleurs défenseurs central du monde. Mais
enfin, ça a été, parce que là...
Oui, c'est ça, en fait, malheureusement, et j'ai. Regarde. On peut s'interroger sur une chose. J'ai beaucoup de mal avec les supporters du PSG qui, en voyant Sergio Ramos,
leur maillot
en voyant Sergio Ramos arriver, voulaient déjà mettre un mec comme Kimpembe sur le banc, certes, qui est pas le meilleur défenseur du monde.
Il est performant.
Énormément de progrès. Qui a l'habitude de se battre pour le club. Et il y a déjà des gens qui se disaient, alors. Oui, bon, ben, il va jouer à la place de Kimpembe, etc. Donc, pour te dire que même un Titi parisien, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, il n'est même pas reconnu à sa juste valeur. Et personnellement, je trouve ça inadmissible. Excuse-moi, Claude. Et juste le dire que Ramos, on l'attend pour les huitièmes de finale. Je peux pas m'imaginer qu'il y ait des mecs qui soient arrivés jusqu'à ce niveau de compétition et dire, ah, je suis arrivé en huitième. Allez, Sergio, prends ma place. C'est du jamais vu. C'est inadmissible.
Non, je pense qu'il arrive dans un contexte de défense à 3. Il va pas arriver au mois de février, se rétablir au mois de février pour jouer au mois de février. Il sera sûrement rétabli courant novembre. Il aura tout le mois de novembre et le mois de décembre pour faire des galops d'essai, pour se faire la main avec le Paris Saint-Germain. Et il arrivera clairement dans un schéma de défense à 3. Ouais. Parce qu'on a vu les success stories. Il y a eu l'équipe de Tuchel avec Chelsea. Et on sait très bien qu'une défense à 3, quand on débute un match, on a plus de,
on a, vous avez tous plus ou moins de loin ou de près côtoyé le football. Enfin, clairement, aujourd'hui, pour le moment, ça reste quand même un échec de la part du Paris Saint-Germain.
Oui.
Quand tu prends Ramos, c'est pas pour attendre qu'il soit prêt au mois de mars, même si on attend de lui qu'il apporte.
Pour moi, à part Hakimi, pour moi, tout le recrutement du Paris Saint-Germain est un échec. Hein.
Et Messi.
Pour moi, hein, personnellement.
Messi,
il a marqué un but en Ligue des Champions. Oui, donc, il va falloir le rassasier, d'accord, il va falloir le motiver.
Il est là pour des exploits,
Bien sûr, mais il faut l'attendre aussi en Ligue 1. Donc, pour l'instant, il a marqué un but face à City. Donc, il y a deux problèmes. Il y a la qualité du joueur, je la remets pas en question, mais il y a le problème de gérer les humeurs et de les motiver. D'accord? Pour les matchs qui sont lambda, et à force de déconvenus, parce que tu perds Rennes une fois, mais si tu perds Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne, une fois tous les mois, psychologiquement, ça peut impacter aussi leur performance en Ligue des Champions. Donc, il faut les motiver, ces gens-là. Donc, moi, il y a Wijnaldum aussi qui commence à se plaindre. On l'a vu dans les médias.
Et pourtant, il a eu son temps de jeu. Hein, et à un moment, il faut prouver.
En tout cas, c'est à un moment, il faut prouver. Il n'a pas vraiment eu sa chance. Hein, Wijnaldum, il souffre justement de la performance d'Herrera et de la stabilité d'Herrera, de Gueye et de Verratti aussi. Mais à part Hakimi, moi, je vois le recrutement du Paris Saint-Germain très, très dangereux. Je dis pas mauvais. Il est très, très bon. Il est exceptionnel. Ouais, c'est peut-être le meilleur de l'histoire. Mais très, très dangereux parce qu'il peut se retourner contre son groupe.
J'ai une question pour Abdel. Justement, alors, c'est vrai qu'on parle Messi. Il a mis son but en Ligue des Champions. Mais à un moment, on attend quand même beaucoup plus. Même si on sait, le temps qu'il arrive. Pourquoi lui, on attendrait alors qu'on a des fois la majorité des joueurs avec la même stade que lui qui se ferait démonter.
Ouais. Je pense qu'en fait on le sent capable à chaque fois de faire un exploit, même si contrairement, on parlait des joueurs que recrute Paris, en général les plus de 35 ou les plus de 33, c'est très compliqué, que ce soit Buffon, que ce soit Daniel Alves, qui pour moi c'était pas un bon recrutement sur.
Il s'est fait les croisés à la fin de la première année aussi, Alves.
Ouais,
il a quand même été là la première année, il a été performant, j'ai beaucoup aimé.
Le niveau certes, mais après le comportement n'y est pas. Et quand on te recrute, c'est pas que forcément pour le
terrain, j'aimais bien son comportement
sur le terrain. Moi, j'aimais pas. Je trouvais qu'il faisait trop défense de Neymar. Après, oui, Messi,
T'es en train de nous dire que le PSG recrute peut-être des retraités.
Oui, c'est ça. Non, mais faut pas avoir peur de le dire. Pour moi, c'est les mecs qui viennent. Ils seraient pas venus dans leur âge d'or, je pense, si on leur avait proposé. Et pour Messi, je pense que c'est un cas vraiment à part. Quand on voit ce qu'il est capable de faire face à City, après, il se crée quand même des occasions. C'est pas énorme, mais on l'attend sur des coups. Il joue un poste qui est aussi peut-être un peu plus différent dans le sens où il joue.
Je viens de recevoir un message,
sur le côté, etc. Voilà, c'est à voir.
Je viens de recevoir un message du médecin du PSG qui m'a dit que pour la visite médicale de Sergio Ramos, ils ont pris sa taille, son poids et sa tension.
Merci Mourad, merci Samir. Merci Abdel, merci Anis à la réalisation et merci de nous avoir écoutés en tout cas sur cette réaction pertinente de Mourad. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain même heure, 20h, 21h. Je vois Yanis qui a le sourire.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.